La science CQFD, Natacha Triou.
L'eau recouvre plus de 70% de la surface du globe. Mais comment les mers et les océans se sont-ils formés sur Terre? Notre planète a-t-elle toujours été bleue? Si la Terre s'est formée il y a 4,567 milliards d'années, nous n'avons aucune idée de l'acte de naissance de ces océans. Mais nous avons des indices de son ancienneté. Pendant longtemps, on a cru d'abord que les comètes, qui contiennent environ 30% d'eau, et les bombardements météoritiques avaient largement ensemencé la planète. Mais une partie des briques nécessaires à l'apparition de l'eau était déjà présente dès sa formation. Cette enquête de paléogéographie a été riche en rebondissements, elle est toujours en cours. Origine des océans, allô le monde! Désolée pour cette référence musicale douteuse et bonjour Laurette Piani.
Bonjour.
Vous êtes cosmochimiste, chargée de recherche CNRS au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique de Nancy. Et en direct du duplex France Bleu Montpellier, bonjour Christelle Tibéri. Christelle Tibéri n'est pas encore avec nous, mais elle nous rejoindra dans quelques instants. Elle est géophysicienne, directrice de recherche au CNRS à Géosciences Montpellier. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture, dans nos studios. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi faire un tour sur X, sur Twitter, pour notre live tweet. C'est sur notre fil à Science CQFD et ça commence tout de suite. Alors, d'où vient l'eau de notre planète bleue? Quelles sont les plus anciennes traces de sa présence? Quels sont les phénomènes géophysiques qui permettent la formation des océans? Et comment ces paléo-océans ont-ils évolué au cours du temps? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais avant de parler de la naissance des océans, comment est née la Terre? La question est posée en 1976, c'est notre archive du jour.
La Terre a survécu à la guerre des mondes, heureusement. Elle a survécu sans autre dommage majeur qu'un intense bombardement de sa surface qui l'a porté à une température élevée. Mais justement, ce bombardement diminuant, eh bien, la surface de la Terre s'est refroidie et ainsi la Terre s'est trouvée à ce moment-là une boule d'éléments lourds exposée au vide. Et en effet, elle a perdu son atmosphère originelle. Mais elle va en avoir une autre. Car à ce moment-là, un phénomène différent se développe. Il y a au sein de la Terre, en effet, un peu de tout, donc des éléments radioactifs. Et ces éléments radioactifs, ils sont générateurs d'une chaleur. Ainsi, la température intérieure monte. Elle va se chiffrer en centaines de degrés, puis en milliers de degrés. C'est l'origine du feu central. Et à ces températures, les matériaux qui constituent l'intérieur de la Terre, ils vont se trouver liquéfiés, ils vont se trouver transformés en gaz, ils vont jaillir littéralement de toutes parts par les pores de la croûte terrestre. C'est le volcanisme. Certains de ces matériaux resteront dans l'atmosphère. Ils vont ainsi enfanter la nouvelle atmosphère de la Terre qui évoluera peu à peu vers son atmosphère actuelle. D'autres matériaux vont se condenser. C'est le cas de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, eh bien, qui va devenir de l'eau, une eau qui va tomber vers le sol, qui va créer ainsi des flaques, des mares, des lacs, qui peu à peu va s'étendre jusqu'à devenir l'océan. Et là, nous avons le visage, si j'ose dire, définitif de la Terre.
Voilà la voix d'Albert Ducrot, chercheur en géologie et d'astronomie, dont on salue l'enthousiasme en 1976 sur France 2. Laurette Piani, comment vous fait réagir ce portrait robot de la Terre et surtout la façon dont ce portrait s'est formé au cours du temps?
Eh ben, c'est un portrait intéressant, je le connaissais pas. Il est effectivement très enthousiaste, mais aussi assez pas si loin de ce qu'on imagine encore être ces premiers instants de la Terre. Ce moment où la Terre est une boule de feu, la première période des temps géologiques qu'on appelle l'Adéen, en référence à Hadès, le dieu des enfers, c'est un peu ce qui est décrit dans cet extrait. Ça m'a bien évoqué cette image, en tout cas.
Christelle Tibéri, on vous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors voilà, cette question, l'eau était-elle déjà présente lors de la formation de la Terre ou a-t-elle été apportée par d'autres phénomènes cosmologiques? On rentrera dans le détail, mais on a là ce qu'on appelle une véritable controverse scientifique.
Oui, tout à fait. Il y a pas mal de personnes qui travaillent dessus. soit sur la Terre primitive en elle-même, la façon dont elle s'est formée, et si l'eau était présente ou pas, et comment l'eau surtout circule dans le système Terre, à l'intérieur, à l'extérieur, aux interfaces et dans l'atmosphère.
Alors ces eaux, on va parler de Terre primitive, mais d'abord, ces océans primitifs, Laurette Piani, on n'a pas de date précise, donc, mais on a des indices sur justement leur ancienneté. Un des premiers indices, ce sont les organismes vivants aquatiques.
Alors voilà, on sait qu'il y a des traces de vie anciennes qui datent à peu près d'il y a 3 milliards d'années, qui sont des formes de vie qui vivaient en présence d'eau. Donc pour retrouver ces traces de vie, on a besoin de la présence d'eau. Donc c'est un premier indice. On a après d'autres évidences qu'il y avait de l'eau assez tôt dans l'histoire de la Terre. Et plus on va loin, plus on essaye de remonter le temps, plus c'est difficile d'avoir des indices précis et des choses concrètes, parce que la Terre, c'est une planète en constante évolution. Et les roches qui sont formées il y a 4,5 milliards d'années, au tout début de la vie de la Terre, ont été évidemment remodelées par les événements géologiques. Donc plus on avance dans le temps, plus c'est difficile, mais on a quand même des indices importants de la présence d'eau très tôt dans l'histoire de la Terre.
Oui, sur ces organismes vivants, ce sont les stromatolites, oui. Qui sont datés à moins 3,8 milliards d'années.
À peu près, oui.
Et à leur côté, justement, autre indice, il y a les zircons qui datent, eux, de moins 4,4 ou 4,3 milliards d'années. Ça fait partie des plus vieux minéraux qu'on peut dater sur Terre?
Ce sont les plus vieux minéraux qu'on peut dater sur Terre. Certains ont été datés justement à 4,4 milliards d'années. Et ces zircons, alors c'est des oxydes de zirconium, c'est des petits minéraux qui se forment. En fait, on ne retrouve pas des zircons entiers de 4,4 milliards d'années, mais on a des différents stades de croissance dans un même minéral. C'est des choses toutes petites qu'il faut regarder avec des microscopes et des instruments analytiques de pointe pour aller faire des analyses à toute petite échelle. Mais donc, quand on regarde ces zircons, on voit que l'intérieur de certains de ces zircons est en fait effectivement très vieux. L'extérieur a poussé après et ça a grandi ensuite. Et on peut les dater donc à 4,4 milliards d'années et en mesurer la composition chimique générale et isotopique. On reviendra, je pense, après un peu dessus. Et c'est indirectement que cette composition isotopique nous fait penser qu'il y avait de l'eau présente au moment où ces zircons se sont formés.
On a ces zircons, puis on a aussi ces autres sédiments marins qui sont nommés les bifs.
Voilà, alors les bifs, c'est un nom un peu... on utilise souvent ce mot-là parce que en fait, c'est un acronyme pour Banded Iron Formation.
Fer rubané en français.
Voilà, c'est formation en fer rubané. Donc c'est des sédiments qui se forment par couches, et le fait que ces couches, qu'on retrouve ces couches, et donc c'est aussi des sédiments qui sont très anciens, on en trouve datés à plus de 3,8 milliards d'années, et la formation de ces couches, elle est possible qu'en présence d'eau. Et donc, on a besoin au moins de très grands lacs ou d'océans pour que se déposent par couches ces différents sédiments. Et puis, on a également d'autres preuves qui sont des basaltes en coussin, des pyrolavas, comme on dit souvent en anglais. Ça, c'est des laves volcaniques qui sont refroidies très rapidement au contact de l'eau. Et donc ça fait des formes particulières qui font une sorte de boule de lave qui se refroidissent en surface et qui ont vraiment une forme spécifique. On les retrouve, ces boules de lave, actuellement au niveau des rides océaniques, donc là où on a du volcanisme sous-marin actuellement, donc c'est toujours en train de se former. Mais on a certaines roches du Groenland et au Canada, Nouvelle-Guinée, où on trouve des anciennes roches en forme de coussins comme ça, qui sont préservées. Évidemment, les coussins sont plus très ronds, ça a été tout déformé par les processus géologiques, mais néanmoins, on pense que ces laves se sont refroidies en présence d'eau et donc d'océan.
Voilà pour les preuves très concrètes de cette présence d'eau terrestre. Christelle Tibéry, pourquoi n'avons-nous pas d'indices plus anciens d'un point de vue géologique, justement, sur cette présence d'eau?
Ben, parce que d'un point de vue géophysique, en fait, ce que nous on appelle un océan, c'est essentiellement par rapport à la croûte qui compose le fond des océans. En fait, la croûte continentale qui forme les continents et la croûte qui est au fond des océans, la croûte océanique, ont des compositions complètement différentes. Et cette croûte océanique, de par le phénomène de tectonique des plaques, va disparaître au sein de ce qu'on appelle les zones de subduction. Et comme elle se fait manger au fur et à mesure, en fait, la plus récente preuve de croûte océanique que l'on ait actuellement sur Terre date de 180 ou 200 millions d'années. Donc on n'arrive pas à voir avant quelle était la croûte océanique ou la croûte qui tapissait les océans avant cette date-là.
Oui, c'est ça, Christelle Thibéry, c'est qu'il y a deux manières de définir les océans. Il y a la définition géographique et il y a la définition tectonique.
Oui, tout à fait.
Mais alors, si on parle... Si on parle de la création de l'océan en termes géographiques, on a tout de même certains modèles de paléogéographie.
Oui. En fait, grâce à différentes disciplines, hein, le paléomagnétisme, la géologie, l'étude des roches et des différentes compositions de la pétrophysique, on arrive en fait à reconstruire le mouvement des plaques. En fait, la tectonique des plaques, c'est les plaques qui se déplacent à la surface de la Terre, parce qu'on a des mouvements de convection qui sont dus au refroidissement général de la Terre. Donc ces plaques se déplacent, et si on fait une rétropropagation du mouvement, on arrive en fait à reconstituer un peu la façon dont les océans et les continents étaient formés il y a plusieurs centaines de millions d'années. Seulement passé un certain stade, en fait, ça devient extrêmement difficile. Les erreurs, les incertitudes, puisque les incertitudes sont extrêmement grandes. Et donc, par exemple, on estime que depuis les 4 milliards ou 4,5 milliards d'années de la Terre, on a eu 7 supercontinents, mais les 6 premiers sont très très mal définis. Donc, effectivement, les océans primitifs, hein, les océans qu'il y avait avant, on bougeait, on n'avait pas du tout la forme qu'ils ont actuellement. Et actuellement, ils n'ont pas la forme qu'ils auront dans 10 millions d'années ou dans 100 millions d'années.
Laurette Piani, pour compléter justement hein, sur ces modèles de paléogéographie, notamment par exemple sur la Pangée qui s'est formée il y a 3,5 milliards d'années.
Alors bon, là, c'est moins mon domaine de recherche, mais effectivement, tout évolue. Et puis, bah, la Terre, c'est une histoire très longue. Moi, je connais mieux le départ, disons, la formation et puis le lien avec la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Mais voilà, on a parlé avec Christelle de plusieurs centaines de millions d'années. Et bah, la Terre, elle commence il y a 4,5 milliards d'années. Donc, il y a un saut quand même à faire et à reconstituer pour les géologues et les cosmochimistes qui travaillent sur ces thématiques. Ouais.
Le départ, en effet, le top départ, avant de parler même de la naissance des océans sur Terre, peut-être qu'il faut aussi parler des débuts du système solaire. D'où provient l'eau de notre système solaire, Laurette Piani?
Alors, notre système solaire, il se forme il y a 4,567 milliards d'années. Par l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière, on est dans le milieu interstellaire, donc entre les étoiles, dans la galaxie. Et puis, à un moment, notre Soleil, il y a assez d'énergie pour que notre Soleil se forme. Et quand il se forme, il est entouré d'un disque, enfin d'un nuage d'abord, puis qui se transforme en un disque parce que ça se met à tourner, de gaz principalement, et ce qu'on appelle, nous, des poussières. Mais en fait, c'est des petits grains solides de minéraux, de matières organiques et ou de glace. Qui vont donc graviter autour du Soleil. Donc là, on n'en est pas encore vraiment à parler d'eau, mais néanmoins, il y en a. En fait, l'eau, elle est constituée de deux éléments, l'hydrogène, c'est H2O, hein, et de l'oxygène. L'oxygène, il est présent dans tout un tas de minéraux, tout un tas de roches. Par contre, l'hydrogène, c'est un élément extrêmement volatile, qui est difficile à concentrer dans les solides. Et bien que ce soit l'élément le plus abondant de notre système solaire, il est principalement dans le gaz sous forme de dihydrogène, H2. Il y en a un tout petit peu qui est sous forme d'autres molécules, et notamment la molécule d'eau, H2O, qui se trouve présente dans ce disque de gaz et de poussière. Et cette molécule d'eau, elle a une propriété particulière, c'est qu'elle va se condenser à relativement haute température par rapport à d'autres molécules et notamment par rapport à ce dihydrogène qui, lui, ne peut pas se condenser dans les conditions du système solaire. Et si elle se condense, ça veut dire qu'elle devient glace. Et si elle devient glace, elle est solide et elle peut être accrétée avec les autres minéraux, les autres poussières. Lorsqu'une planète, un petit corps, se forme dans le système solaire. Et donc, on définit une limite qu'on appelle la limite de glace, qui est la distance, en fait, au soleil à partir de laquelle la température est suffisamment basse pour que l'eau condense. Et donc, tous les corps qui vont se former au-delà de cette limite de glace vont pouvoir agglomérer beaucoup de glace d'eau et éventuellement aussi d'autres éléments volatiles comme du CO2, du méthane, etc. Et donc, ces corps, ils vont être riches en molécules volatiles, en eau. Et donc, c'est des corps qui se forment plutôt loin dans le système solaire. Au-delà, cette limite de glace, on imagine qu'elle était entre l'orbite de Mars et de Jupiter, environ 3, 4 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance Soleil-Terre. Donc, on est à des distances assez élevées. Et par contre, par ailleurs, la Terre et les autres planètes rocheuses, elles se forment dans le système solaire interne, où finalement la température était sûrement trop élevée pour que l'eau puisse condenser ou en tout cas puisse être agglomérée avec les autres solides. Et donc, la Terre est a priori une planète qui se forme dans un environnement sec, en absence de glace d'eau.
Oui, c'est ça, c'est la Terre, enfin toutes les planètes rocheuses proches du Soleil, Mercure, Vénus, Mars. Alors quelles sont les différentes hypothèses sur la formation des océans et sur l'origine de l'eau de notre planète ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Laurette Piani et Christelle Tibéri, nous parlons de l'origine de nos océans sur Terre. Nous venons de parler de la naissance de la Terre, du système solaire. On vient de voir que malheureusement sur notre planète, les archives géologiques lointaines ont été largement détruites. Que les premières preuves incontestables qui attestent la présence d'océans remontent à 3,8 milliards d'années avec les basaltes en coussin, ces boules de roche qui résultent de la solidification de la lave au contact de l'eau. Laurette Piani, pour comprendre l'origine de l'eau sur Terre, il faut donc faire un peu de chimie. Nous avons des traceurs chimiques pour ça. Il faut étudier le rapport isotopique DH pour deutérium, hydrogène. Ça, c'est un marqueur de l'eau.
Oui, tout à fait. Parce que l'eau, cette molécule qui contient donc de l'hydrogène et de l'oxygène, et en particulier de l'hydrogène, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup en dehors de cette molécule d'eau dans le système solaire, en formation, je veux dire, dans les roches du système solaire, et ben du coup, cet hydrogène, on va chercher à retrouver son origine. Et on utilise donc ce qu'on appelle les isotopes de l'hydrogène, H et D, comme un peu les empreintes digitales. En fait, c'est ce rapport isotopique, le rapport des deux isotopes de l'hydrogène, comme les empreintes digitales de l'eau qui était présente dans le système solaire. Et donc, on va chercher à trouver, pour comprendre l'origine de l'eau sur Terre, cette planète qui se forme dans le système solaire interne où il n'y avait pas beaucoup, dans un environnement plutôt sec, on essaye de comprendre d'où vient l'eau. On va essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir expliquer à la fois la quantité d'eau qu'on a sur Terre, mais aussi le rapport isotopique D sur H, donc cette empreinte digitale de l'eau, parce que si on trouve un objet qui peut apporter de l'eau, mais qui n'a pas du tout le bon rapport isotopique D sur H, ça ne va pas être le bon candidat pour expliquer l'eau de notre planète.
Oui, c'est pour ça qu'on s'intéresse justement à cette composition isotopique de l'hydrogène et qu'on compare l'eau de notre planète à cette composition isotopique avec d'autres objets qui viennent d'ailleurs.
Voilà, exactement. Alors, on a plusieurs archives de ce qu'était la matière dans le système solaire. Et ces archives, ce sont notamment des météorites qu'on a sur Terre. Une météorite, c'est une roche extraterrestre qui tombe, qu'on retrouve à la surface de la Terre. Ces météorites, il y en a de différentes sortes, mais celle qui nous intéresse là, dans ce cas-là, c'est les météorites qu'on appelle météorites primitives ou encore appelées chondrites, qui sont des météorites qui viennent de petits corps du système solaire. Donc typiquement des astéroïdes qui n'ont pas évolué géologiquement. Et comme ils ne sont pas différenciés, contrairement aux planètes comme la Terre, ils n'ont pas évolué, les éléments chimiques ne se sont pas redistribués entre un noyau, un manteau, une croûte, comme sur la Terre. Tout est resté sur place. Et donc, on utilise ces objets comme des archives de la matière de notre système solaire. Donc, maintenant qu'on sait ça, on peut prendre ces météorites, les différentes chondrites qui existent, et essayer de voir lesquelles viennent du système solaire externe, lesquelles viennent du système solaire interne, et mesurer leur hydrogène et leur composition isotopique d'essurage pour les comparer à l'eau de la Terre. Et c'est ce qu'on a fait pour essayer de... Enfin, je ne suis pas du tout la seule, il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Et ce qu'ont fait les scientifiques pour essayer de comprendre de l'origine de l'eau de notre planète.
Oui, pour tout savoir sur les météorites, je vous invite à écouter aussi notre émission qui aura lieu demain avec un chasseur de météorites, Patrick Michel. Pour revenir sur cette question de l'eau terrestre, la première hypothèse, c'est qui a longtemps été privilégiée, c'est celle donc d'un apport externe de l'eau par les comètes ou les astéroïdes. Pourquoi cette hypothèse a-t-elle été formulée, Laura Piani?
Alors déjà, les comètes, on les connaît, c'est des objets qui viennent de loin dans le système solaire, qui sont de temps en temps dont l'orbite a été déroutée, et donc ils se retrouvent à passer pas loin du Soleil et ou de la Terre. Donc c'est des objets qui peuvent éventuellement nous arriver dessus. Mais en plus, ces comètes, quand elles se rapprochent du Soleil, elles produisent une queue. En fait, c'est de la glace qui est sublimée quand la comète se réchauffe en se rapprochant du Soleil. Et donc, on étudie ces comètes depuis un moment. On sait qu'elles sont constituées d'une grande quantité d'eau, de l'ordre de 30%. Et on peut aussi mesurer leur composition isotopique de l'hydrogène, le D-sur-H. Et alors, il y a différentes études qui ont été faites sur différentes comètes. Et les premières comètes qui ont été mesurées, le D-sur-H était assez élevé, environ trois fois celui des océans terrestres. Donc, ça n'avait pas été considéré au début comme de bons candidats. Puis, il y a eu des comètes pour lesquelles le D-sur-H, finalement, est assez proche de celui, enfin même identique à celui de la Terre. Et elles, ça aurait pu être de bons candidats également.
Un rebondissement.
Et autre rebondissement. On a eu ces dernières années la mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Rosetta et qui a été étudiée de près une comète qui est appelée 67P Churyumov-Gerasimenko. Et donc cette comète, il y a eu beaucoup d'études et des mesures très précises de sa composition isotopique de l'hydrogène. Et c'est en fait la comète avec le plus de deutérium, le rapport des sur-H le plus élevé qu'on connaisse pour l'eau. Et en fait, beaucoup de molécules aussi organiques, d'autres molécules qui contiennent de l'hydrogène dans cette comète ont aussi des sur-H encore plus élevés, environ plus de 5 fois celui des océans terrestres. Et donc, en voyant ça, on se dit que quand même, c'est peu probable qu'une comète apporte de l'eau avec la bonne composition isotopique.
Mais est-ce que, on parle justement de cet outil qui est la composition isotopique, mais la composition isotopique actuelle de l'eau de nos océans a pu aussi évoluer au cours du temps?
Elle a pu évoluer, c'est vrai, mais ça, c'est des modèles qui sont réalisés, montrent que si elle a évolué, elle a évolué d'une toute petite quantité, et en fait pas du tout suffisamment pour expliquer des variations de l'ordre de 3 à 5 fois le rapport qu'on a aujourd'hui. Et ça va plutôt vers une évolution qui part du bas et qui augmente plutôt que l'inverse, et donc ça va pas dans le bon sens.
Christelle Tibéry, voilà, donc on sait qu'il y a une petite contribution des comètes, mais ce n'est pas le principal contributeur de l'apport en eau sur notre planète.
Oui, alors c'est pas non plus mon cœur de métier, mais les roches en fait terrestres ont des compositions en fait, elles contiennent en fait des minéraux qui sont hydratés et qui peuvent remonter en fait ce qui gère principalement la planète, ça reste la gravité. Et tous les éléments dont Laurette a parlé, par exemple, le fait que H est très volatile, etc., c'est directement lié aussi à la gravité, c'est-à-dire que les éléments les plus lourds vont se concentrer à l'intérieur de la Terre, alors que les éléments les plus légers vont avoir tendance à quitter la Terre. Et l'oxygène et l'hydrogène en font partie. Et donc pour un exemple très en fait actuel en géologie, c'est que par exemple le système de la subduction, donc c'est l'entraînement d'une plaque océanique dans le manteau terrestre va entraîner en fait des minéraux hydratés vers l'intérieur de la Terre. Ces minéraux hydratés en fait en étant compressés et réchauffés vont se déshydrater et tout ce qui est hydrogène et oxygène en fait vont remonter, vont permettre en fait à la roche de fusionner et de libérer en fait cette eau. Donc en fait on a un cycle et ces matériaux H et O sont présents dans la Terre. Donc vous pouvez être présent avant en fait.
Laurette Piani, en 2021, vous avez obtenu la médaille de bronze du CNRS pour vos travaux sur l'origine de l'eau et des volatiles dans le système solaire. En 2020, vous avez publié dans la prestigieuse revue Science une étude selon laquelle l'eau aurait donc toujours été présente sur Terre. Et pour ça, vous avez justement travaillé avec les météorites dont vous nous parlez, hein, les chondrites en statite. Quels ont été justement les résultats de vos analyses ?
En fait, dans cette étude, on a étudié un type de chondrites particulières, les chondrites en statite. Et ces chondrites, elles ont la particularité d'être très proches des roches terrestres pour plein de compositions isotopiques de plein d'éléments, comme l'oxygène, le calcium, le titane, etc. Quand on étudie, donc on considère que ces météorites, elles viennent probablement d'un même réservoir que les roches qui ont formé la Terre. Et quand on étudie ces météorites, on sait qu'elles ne contiennent pas beaucoup d'eau, contrairement à d'autres météorites formées plus loin dans le système solaire externe. Mais on ne savait pas jusqu'alors exactement combien elles en contenaient et si elles pouvaient vraiment avoir ou non contribué à l'eau de la Terre, si elles étaient effectivement comme les roches qui ont formé la Terre. Donc ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a analysé la composition, la teneur en eau, et puis la composition isotopique de ces chondrites en statite, toute une série. Et puis on a montré qu'en fait, elles en contiennent vraiment pas beaucoup, mais quand même un peu. Et que ce un peu d'eau suffit à expliquer une partie importante finalement de l'eau de la Terre. Et surtout qu'elles ont le bon rapport isotopique des sur H pour expliquer ce qu'on observe dans certaines roches très... Du manteau très profond, donc peut-être que l'eau de... Enfin, en tout cas, la Terre, lorsqu'elle s'est formée, elle s'est formée à partir de matériaux similaires à ces chondrites en statite, qui contenaient un petit peu d'eau, une toute petite quantité, mais quand même, et qui était aussi... qui avait une composition isotopique qui est maintenant encore préservée dans le manteau de la Terre.
C'est que ces briques constitutives de l'eau incorporée dans les roches sont là donc très tôt dans l'histoire de la Terre. Mais alors comment des océans ont-ils pu se former ? Comment il y a de l'eau liquide qui apparaît ensuite à la surface ?
Alors la Terre est passée par tout un tas d'épisodes avant de devenir ce qu'elle est maintenant, mais notamment tout au début de son histoire, elle a été sous une forme d'un océan de magma. Alors, même sûrement peut-être au départ, mais en particulier après l'impact géant qui a résulté à la formation de notre satellite, la Lune.
À l'impact avec Théia, en effet, voilà. De la taille de Mars, hein, je crois, non ? C'est ça l'objet qui a fracassé.
Exactement. Et du coup, ça provoquait un choc terrible et donc la roche a été complètement fondue, si tant est qu'elle était pas déjà fondue quand ça s'est passé. Et donc, on a eu un océan de magma. Et donc, cet océan de magma, ça a permis aux éléments de se redistribuer de façon différente, mais ça a aussi permis à la fois de dissoudre des éléments volatiles dans la roche en fusion. Et quand cette roche elle refroidit, et ben ça va relarguer, comme le disait Christelle un peu plus tôt, aussi des éléments volatiles en surface. La Terre étant déjà bien formée et ayant déjà atteint une masse quasiment finale, elle a une fort champ de gravité, elle retient ces éléments volatiles et puis quand elle refroidit, ils vont se recondenser à la surface. C'est comme ça qu'on imagine la formation des premières masses d'eau liquide à la surface de la Terre.
Alors comment ces paléo-océans ont-ils pu se maintenir au cours du temps sur notre planète ? Comment océans et tectonique des plaques interagissent-ils ensemble ? Restez à l'écoute.
Behind the eyes. see change into pain, but also something rich and strange. But also something rich and strange.
Seine Firmin, Océane Icare, en direct sur France Culture, car nous parlons de paléo-océan, et plus exactement de l'origine des océans sur Terre. On en parle avec nos deux invités du jour, Laurette Piani, cosmochimiste, chargée de recherche CNRS au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique de Nancy, et Christelle Tibéry, géophysicienne, directrice de recherche au CNRS à Géosciences Montpellier. Nous venons de voir qu'une partie de l'eau était présente dès la formation de la Terre, que les atomes constitutifs de l'eau étaient présents dans la roche terrestre, et que aurait pu former de l'eau lors du dégazage de la croûte terrestre qui s'est produite dans les 150 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre. Alors, nous sommes aussi la seule planète du système solaire connue à ce jour à avoir des océans, mais aussi une tectonique des plaques, et sans eau, pas de tectonique des plaques.
À la surface de la Terre, les choses sont rigides. La Terre, c'est de la roche, c'est solide. Mais lorsque vous descendez en profondeur, à plus de 60 ou 100 km, la température a beaucoup augmenté. Et il ne s'agit plus de roches rigides, ce sont des roches qui peuvent fluer, un peu comme de la cire, si vous voulez. Et donc, la partie superficielle, c'est ce qui forme les plaques. C'est ce qui va bouger de manière rigide, comme un ensemble. Et la surface de la Terre, c'est un ensemble de radeaux rigides qui bougent les uns par rapport aux autres. Alors, il y a des endroits où les plaques, les radeaux, s'écartent, et puis il y a des endroits où ils se rapprochent. Et les continents sont pris là-dedans exactement comme des bateaux dans un champ de glace, et ils dérivent avec les plaques, et ils s'en vont dans un sens ou ils s'en vont dans l'autre. Eh bien, la tectonique des plaques s'occupe de mesurer, de calculer ces différents mouvements et de voir quelles en sont les conséquences, c'est-à-dire toute la dynamique de la Terre, les séismes, les volcans, les chaînes de montagnes. Les continents sont faits d'un matériau qui ne peuvent pas redescendre au fond de la Terre, tandis que le fond des océans, les plaques océaniques au fond, peuvent couler. Et la manière dont ils coulent, la meilleure approximation peut-être, c'est de penser à la serviette qu'on laisse tomber dans une piscine. Vous lancez une serviette dans une piscine, en général, elle commence par se mouiller par un bout. Au début, elle flotte. Et puis, lorsque le bout est mouillé, il s'alourdit. Et progressivement, vous voyez la serviette qui s'enfonce et elle va couler. Mais le fond des océans, c'est exactement ça. Lorsque il est devenu suffisamment vieux, la partie rigide devient lourde. Et au-dessus de ce milieu visqueux, il y a un bout qui va commencer à plonger, et lorsque le bout a commencé à plonger, il entraîne tout.
Le géologue Xavier Le Pichon, au grand talent de vulgarisateur en 1979 sur France 2. Christelle Tibéry, comment tectonique des plaques et océans sont-ils liés? Comment la tectonique des plaques donne naissance aux océans?
Oui, alors comme l'a dit Laurette juste précédemment, à sa formation, la Terre, elle était une boule de magma, et quand elle s'est refroidie, et donc la surface de la Terre a commencé à se refroidir, à se rigidifier, un peu comme quand on fait cuire du lait et qu'il y a une petite peau qui se forme à sa surface. En fait, la surface de la Terre a commencé à être rigide. Et ce refroidissement de la Terre continue encore actuellement. Et la Terre se refroidit notamment par un processus qu'on appelle la convection, c'est-à-dire qu'on a des différences de température entre la surface de la Terre qui est plus froide et l'intérieur de la Terre qui est beaucoup plus chaud. On n'a même aucune idée précise de sa température actuelle à l'intérieur, au centre de la Terre. Tout ce qu'on sait, c'est que ce gradient de température, en fait, génère des mouvements de convection, exactement comme dans une casserole d'eau où quand vous mettez des pâtes, vous voyez que les pâtes, elles bougent. Le matériel plus chaud va remonter parce qu'il est plus léger. Et puis, quand il va se refroidir parce que la Terre est plus froide à sa surface, il va redescendre et vers l'intérieur de la Terre. Et ces mouvements de convection, en fait, qui sont extrêmement lents, comme le mentionnait Xavier Le Pichon, c'est de quelques centimètres par an. C'est-à-dire qu'en fait, ça bouge en un million d'années, les roches vont faire un kilomètre. C'est vraiment très très lent. Et ce mouvement de convection, même s'il est très très lent, va entraîner à sa surface la partie rigide de la, de la Terre, qu'on appelle la lithosphère. Et c'est cette partie-là, en bougeant en fait, qui à l'aplomb en fait des mouvements de convection qui montent va s'écarter, et à l'endroit où en fait les mouvements de convection vont descendre vers l'intérieur de la Terre vont entraîner une certaine partie de la croûte dans ce qu'on appelle les zones de subduction, c'est-à-dire qu'on va manger, faire disparaître de la croûte. Et l'endroit où on va faire monter en fait les cellules de convection, à cet endroit-là, en fait, le magma va affleurer à la surface, et c'est ce qui va provoquer ce qu'on appelle les rides océaniques ou les dorsales océaniques. Ça va faire un petit peu comme un tapis roulant. De part et d'autre de cette ride, en fait, on va avoir du matériel magmatique qui se met en place. Et pour se mettre en place, en fait, il va pousser le matériel préexistant, et on va avoir des plaques qui s'écartent l'une de l'autre à quelques centimètres par an. Et vu que cette croûte, elle est plus dense que les continents, encore une fois, comme le mentionnait Xavier Le Pichon, elle va rester à un niveau assez bas. Et c'est pour ça que les continents sont plus hauts, ils sont plus légers. Hein. C'est un peu comme l'histoire du glaçon dans l'eau. Et les océans font un plancher qui est plus bas. Et l'eau, en fait, elle s'est mise dans les parties basses de la Terre, donc sur ces planchers océaniques.
Donc oui, d'un côté, on a la convection terrestre avec la mise en place de croûtes océaniques à l'origine de la formation des océans, ou bien une nouvelle création d'océans par rupture d'une plaque continentale qu'on appelle aussi le rift. La formation des océans, on voit un résultat, un long processus qui s'étend sur des échelles géologiques qui dépendent de la tectonique des plaques et sa dynamique au niveau de la croûte terrestre. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lausanne, bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure pour vous pencher sur des cartes des dorsales à l'origine des océans.
Et oui, sous l'effet des contraintes tectoniques, comme on l'a dit, la croûte terrestre s'échauffe et s'étire jusqu'à rupture, formant ainsi un rift, une zone de divergence entre deux futures plaques où se forment les dorsales océaniques, qui sillonnent ainsi le globe sur plus de 60 000 km. Les géologues Javier Escartín et Jean-Arthur Olive dressent des cartographie en croisant modélisation et campagne de navigation pour analyser ces processus ancestraux mais pourtant encore mal connus à l'origine des océans.
Oui, ça c'est une carte à l'ancienne, c'est une carte qu'on appelle une carte nautique de navigation, parce que quand on va à la mer, on doit préparer les campagnes océanographiques, donc les routes, les navigations. Et pour la navigation et pour faire toutes ces planifications, on revient aux cartes à l'ancienne des cartes nautiques. On voit, on a toutes les profondeurs, tous ces numéros. On ne voit pas bien les reliefs, mais on peut deviner, par exemple, ici, la dorsale médio-atlantique, que c'est beaucoup plus élevé. Donc, vous avez les profondeurs de jusqu'à 1000 mètres, près des Azores. Donc, ça, c'est une carte au large de la péninsule ibérique, la France, près des Azores. Et ça, c'est une zone dans laquelle on prépare des campagnes océanographiques dans les prochains mois. Et vous voyez qu'il y a des gaps, il y a des trous. Toute la partie blanche, ce sont des zones sans données. Donc on se cible sur les zones d'intérêt, en particulier les dorsales, parce que c'est là que la croûte se forme.
Alors les dorsales océaniques, c'est comme une très longue chaîne de relief au milieu des océans, donc ça fait 65 000 km de long au total en cumulé. Donc, c'est une chaîne très très allongée qui traverse tous les océans, on peut dire l'océan global, et c'est une frontière de plaques tectoniques où deux nouvelles plaques tectoniques se forment et s'écartent les unes des autres. Et donc au niveau de la dorsale, on a une activité sismique, et une activité volcanique, puisque c'est là que se met en place le nouveau matériau qui va faire le fond de la mer, donc des laves basaltiques la plupart du temps.
Voilà. Pour bien comprendre le mécanisme physique en jeu, mécanique, tout commence par un rift.
Oui.
Et ce rift va devenir, en s'écartant, cette dorsale.
Oui, c'est ça. En fait, on part d'un continent donc, qui, tout à coup, pour une raison ou une autre, se met à subir de l'extension. Et donc, en s'étirant, la croûte continentale, donc, qui fait une trentaine de kilomètres d'épaisseur, va s'amincir exactement comme un caramel mou et va finir par perdre toute son épaisseur. On va passer 30 km d'épaisseur à aucune croûte continentale, zéro. Et en faisant ça, on va faire remonter le manteau qui est sous le rift, et en remontant, le manteau chaud va pouvoir fondre en partie. Donc on va avoir ce qu'on appelle la fusion partielle, du magma qui est plus léger que la roche environnante, qui va vouloir remonter, et quand il arrive près de la surface, ce magma se met en place en nouvelle croûte. Donc on va passer d'une croûte continentale d'une trentaine de kilomètres d'épaisseur à une croûte continentale complètement amincie, qui est remplacée par une croûte océanique, qui résulte de la mise en place de nouveaux magmas. Voilà, au fur et à mesure. Et donc là, on regarde une coupe de bathymétrie à travers l'océan Atlantique. Donc on voit la dorsale atlantique qui surplombe vraiment tout le reste, hein, qui est à peu près 2 km au-dessus des plaines abyssales. Donc elle est à 2 km de profondeur, et les plaines abyssales, elles, sont à 4 km de profondeur. Et sur 500 km, on voit le plancher qui s'enfonce. Et si on regarde de plus près, on voit ces petites oscillations dans le plancher océanique, sur des échelles de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Ça, c'est les collines abyssales. Donc, c'est la texture du plancher océanique. Et c'est vraiment l'empreinte des processus tectoniques et magmatiques qui sont actifs à la dorsale.
Et cette courbe, c'est la base de ce qu'on appelle les plaines abyssales. Ce sont les parties profondes à chaque côté des dorsales et près des marches continentales, des profondeurs de 4000-5000 mètres. Ce sont des zones qu'il n'y a pas beaucoup d'activité sismique, ne sont pas actives du point de vue volcanique, par rapport à la dorsale qui est ces 2 km plus haute, donc moyenne de 2500-3000. Même en Islande, elle sort de la mer parce qu'il y a une activité volcanique extraordinaire, ça s'appelle des points chauds. Donc on arrive à faire des croûtes très épaisses, océaniques, qui met la dorsale sous le niveau de la mer.
Je voulais savoir comment on explique, une fois qu'on a donc cette dépression topologique, l'accumulation d'eau qui amène à la formation d'un océan.
Alors ce qu'on peut expliquer, c'est déjà pourquoi le fond de l'océan est plus bas que la surface des continents. C'est une partie de la réponse. En fait, c'est simplement une question de composition des roches. On a des roches beaucoup plus riches en fer et magnésium qui ont une densité plus élevée dans la croûte océanique. Et la croûte océanique est beaucoup plus fine que la croûte continentale. Après, la raison pour laquelle l'océan s'approfondit, en fait, donc la raison pour laquelle la dorsale surplombe les plaines abyssales, c'est simplement parce qu'au niveau de la dorsale, on a du manteau chaud qui remonte plus près de la surface. Et donc, par simple effet de densité, j'ai du matériau plus chaud, des roches moins denses qui se retrouvent proches de la surface, alors que quand du nouveau plancher océanique, quand de la nouvelle plaque tectonique s'accrète et s'écarte de la dorsale, elle se refroidit, elle perd sa chaleur, et du coup elle se densifie, elle devient de plus en plus lourde, et au bout d'un moment, par un mécanisme qu'on a d'ailleurs toujours pas très bien compris, va finir par devenir plus lourde que le manteau qui est en dessous d'elle, et une subduction va s'initier.
Et vous êtes plutôt dans l'aspect modélisation, parce qu'il faut complémenter les carences sans doute observationnelles et de terrain.
Oui, c'est ça, en fait, avec les observations géologiques. Donc, on envoie aussi des sous-marins, d'ailleurs, hein, pour prélever, pour regarder, faire de la géologie au fond de la mer. Avec ça, on a une vision qui est toujours forcément partielle. On ne peut pas voir très très loin sous la surface, enfin sous le plancher de l'océan. Mais surtout, on ne voit pas ce qui se passe dans le temps, quoi. On est limité sur des observations très ponctuelles. Donc l'idée, c'est d'utiliser les outils de la physique, de la mécanique des solides, pour essayer d'extrapoler un petit peu comment fonctionne ce système sur des échelles de centaines de milliers d'années à des dizaines de millions d'années.
Et je me demandais, avec ce type d'outils, est-ce qu'on arrive à faire des rétro-scénarios pour comprendre la formation des paléo-océans ?
En fait, les océans actuels, la croûte océanique actuelle, la plus vieille croûte fait 180 millions d'années, ça, si je ne me trompe
pas.
C'est
ça, c'est comme tout. C'est en mouvement, il y a une dynamique qui recycle, donc en fait, il n'y a pas d'empreinte fossile.
C'est ça, il n'y a quasiment pas de croûte océanique plus vieille qu'à peu près 180 millions d'années à la surface de la Terre, on va dire in situ, parce que quand ça devient trop vieux, ça devient trop froid, et ça passe en subduction et ça disparaît. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas, on n'a aucune observation de mode d'accrétion directement.
Mais grâce à vos outils.
On pourrait extrapoler, notamment à une Terre ancienne. On peut imaginer au début de la tectonique des plaques, dans une Terre où le manteau est plus chaud, où on a plus de magmatisme, la croûte océanique pourrait être beaucoup plus épaisse que ce qu'on a actuellement, on peut imaginer à quoi ressemblerait une dorsale à l'Archéen, par exemple. Et se demander aussi jusqu'où les fluides, jusqu'où l'eau de mer pourrait percoler dans un système comme celui-là, quelles seraient les conséquences pour les sources hydrothermales, pour l'apparition de la biologie, etc. Ouais.
Merci Céline Lezenne pour votre reportage. On arrive vers la fin de cette discussion, Christelle Tibéri. Voilà, les océans bougent. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblaient ces paléo-océans, de leur température, leur composition ?
Alors, leur température et leur composition, ça dépasse largement mes compétences, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. Faudra certainement aller voir des collègues paléoclimatologues ou paléogéographes. Pour ce qui est de leur répartition, on pense actuellement qu'il y a eu plusieurs stades plusieurs stades où en fait on avait des super continents et donc des super océans. Donc le dernier en date, c'était la Pangée il y a 300 millions d'années, si je ne me trompe pas, avec un océan qu'on appelait la Pantalassa. Ce méga continent, ce super continent, s'est désagrégé en plusieurs continents et plusieurs océans se sont créés. Donc on a eu comme ça des moments où en fait tous les océans ne faisaient qu'un seul océan et puis des moments où en fait il y en avait plusieurs. Ça va être aussi le cas. Donc on fait des paléoconstructions. Et on fait aussi des projections vers le futur. Il y a des collègues qui travaillent là-dessus.
La Terre a perdu et gagné des océans au fil des millénaires. Je pense à une autre planète qui a perdu son eau, puisqu'on parle de l'origine de l'eau sur Terre. Mais qu'en est-il des autres planètes comme Mars, dont on sait qu'il y a eu de l'eau, Laurette Piani ?
Alors effectivement, on a plein de preuves qu'il y a eu des écoulements d'eau liquide à la surface de Mars, sûrement en grande quantité. Il y a des modèles qui proposent qu'il y ait carrément eu un océan à la surface de Mars, mais cet océan aurait disparu. Peut-être la calotte polaire qu'on a au pôle nord de Mars, ça serait juste le reste d'un océan passé et qui a disparu, parce que Mars est une plus petite planète que la Terre, avec des conditions physico-chimiques différentes, et elle n'a pas pu conserver son atmosphère, ni son océan à sa surface, malheureusement.
Mars qui ressemble aussi beaucoup à la planète Terre, on pourrait imaginer que les processus de formation étaient similaires à ce qui s'est passé sur notre planète ?
Peut-être, probablement que Mars aussi a subi des bombardements météoritiques et a pu être alimenté par des matériaux qui contenaient de l'hydrogène, soit ceux qui étaient là comme pour la Terre, ou soit d'autres qui venaient du système solaire externe. Et effectivement, ça pourrait expliquer cette présence d'eau initiale sur Mars, mais elle ne l'a pas conservée.
Laurette Piani, quelles sont les pistes de recherche actuellement à l'étude ? Que reste-t-il à découvrir ?
Il reste plein de choses à faire. Déjà, on connaît assez mal la quantité d'eau de la Terre profonde, la composition du manteau de la Terre notamment, et même s'il y a de l'hydrogène un peu dans le noyau, parce que l'hydrogène, c'est un élément qui peut avoir une certaine affinité avec le métal aussi. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, et il reste des choses à comprendre, et notamment pour ce qui est du manteau, bien quantifier l'eau de la Terre. Donc ça, c'est parmi les études en cours. Et bien sûr, sur les météorites, il reste plein de choses à faire parce que les météorites, il y en a plein de types et il y a plein de choses à comprendre sur leurs différences et leur concentration en eau et leur origine.
Vous, par exemple, en ce moment, vous travaillez sur un nouveau type de météorite pour vos prochaines études ?
Alors, je fais différentes choses. Je travaille notamment sur les échantillons de retour de mission spatiale. On a eu deux missions qui ont ramené des morceaux d'astéroïdes, la mission OSIRIS-REx et la mission Hayabusa 2, donc respectivement de la NASA et puis de la JAXA. Et puis, ces roches contiennent un peu d'eau. Et donc, on cherche à comprendre si elles sont les mêmes que les météorites qu'on a dans nos collections ou complètement différentes, par exemple.
Ah, ces roches, on continuera de vous en parler demain, ça fait un beau teasing de notre émission qui aura lieu donc ce mercredi. On est arrivé à la fin de cette discussion. Merci Christelle Tibéri, merci Laurette Piani. Comme chaque jour, on retrouve la chronique Avec Science dans quelques secondes. Aujourd'hui, Pierre Ropert nous parle de ces villes qui s'enfoncent peu à peu dans le sol. C'est la chronique Avec Science.
Les villes chinoises s'enfoncent peu à peu dans le sol. C'est un phénomène bien connu des géologues que l'on appelle la subsidence. Il s'agit du lent affaissement de la surface de la croûte terrestre en raison du poids qui s'accumule sur elle. Les montagnes, la calotte glaciaire ou même les villes pèsent sur le sol. À l'échelle mondiale, les géologues ont mesuré le taux de subsidence des grandes villes. Il est estimé à environ 30 cm par siècle. Alors évidemment, on pourrait se dire que 30 cm d'affaissement par siècle, ça laisse le temps d'anticiper. Le problème, c'est que certaines villes s'enfoncent beaucoup plus rapidement que d'autres. Au cas par cas, on sait par exemple que New York, qui pèse la bagatelle de 764 millions de tonnes, ne s'enfonce que de 1 à 2 mm chaque année. Mais pour des villes chinoises, comme Pékin ou Tianjin par exemple, les chiffres sont un peu plus inquiétants. Elles s'enfoncent 10 fois plus vite au rythme d'un centimètre par an. Ce sont en tout cas les dernières mesures qui ont été publiées dans la revue Science. Une équipe de scientifiques, emmenée par des universités chinoises, a utilisé l'interférométrie radar. Cette technologie permet de mesurer la distance parcourue par les ondes envoyées depuis un satellite jusqu'à la Terre, comme l'explique Joe Graal, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Littoral, Environnement et Société.
Ici, ça a été fait sur une période de 7 ans. Entre 2015 et 2022, de explorer systématiquement ces temps de trajet entre le satellite et les sols des villes chinoises. C'est mesuré à une résolution fine, donc ça implique pas forcément toute une ville, mais des quartiers, des zones humides ou des zones avec une surexploitation humaine à l'échelle d'une ville. Donc le résultat, c'est qu'il y a à peu près 45% de ces espaces qui s'enfoncent au-dessus du taux seuil de 30 cm sur 100 ans. Et il y a à peu près 5% de ces espaces qui s'enfoncent à un taux d'à peu près 2 mètres sur 10 ans. Donc, c'est un résultat qui peut avoir une portée politique, qui peut être utilisé. Il conforte plutôt ce qu'on connaissait sur l'étude soit d'autres zones géographiques, soit d'autres approches, et pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle d'un continent particulier ou à l'échelle mondiale.
Sur les 82 villes étudiées, 13 d'entre elles s'enfoncent ainsi dans le sol à la vitesse de plus d'un centimètre par an. Au total, 270 millions d'habitants, soit près d'un tiers de la population urbaine chinoise, vont être concernés par des risques accrus d'infrastructures fragilisées. Si les villes chinoises s'enfoncent bien plus vite que d'autres, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, certaines de ces agglomérations étaient construites à proximité de mines ou de sites d'exploitation d'hydrocarbures. À ces endroits, les cavités peuvent s'effondrer, ce qui augmente le taux de subsidence. Mais les scientifiques pointent surtout l'exploitation des nappes phréatiques. L'eau présente dans les nappes souterraines maintient en effet une pression, et lorsque l'eau est siphonnée, la force exercée diminue, ce qui provoque l'affaissement du sol.
Il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent induire ces processus. Dans le cas de ces mètres sur l'échelle de 10 ou 100 ans, c'est souvent induit par le pompage des eaux douces, enfin des aquifères en général. Il y a une surexploitation des nappes d'eau. Et dans ce cas-là, en fait, il y a deux directions possibles. Soit on prend une décision rapide et on met en place l'arrêt des pompages. Si c'est fait assez rapidement, le processus peut en partie, en tout cas, être réversible. Donc ça, par exemple, ça a été des décisions qui ont été prises dans des villes comme Tokyo ou Osaka. Mais si, en fait, il n'y a pas de décisions qui sont prises et qu'on continue la surexploitation, on passe un seuil critique. Le processus va devenir irréversible, c'est-à-dire que même si on arrêtait, ça va continuer de s'enfoncer.
La ville de Jakarta, en Indonésie, a par exemple dépassé ce seuil critique. Dans certains quartiers, elle s'enfonce à une vitesse de 25 cm par an. La capitale indonésienne s'enfonce inexorablement dans le sol de l'île de Java, et c'est d'ailleurs en partie ce qui a poussé les autorités administratives à lancer le grand déménagement de la capitale. Depuis 2020, la construction d'une nouvelle ville, Nusantara, a ainsi débuté au milieu de la jungle tropicale de l'île de Bornéo pour fuir la subsidence. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cela arrive en France dans une ville comme Paris, par exemple? Alors pour le moment, il n'y a pas d'études consacrées à la totalité du territoire français, mais a priori, Paris n'est pas pour le moment la plus concernée par ce phénomène. En 2002, une étude a bien pointé deux zones de la capitale qui s'enfonçaient au point de provoquer des fissures dans des bâtiments, mais le phénomène reste assez restreint. En France, en revanche, le delta du Rhône est surveillé de près. Les deltas sont en effet des zones à risque où le taux de subsidence est en règle générale plus élevé. Mais ce sur quoi les géologues alertent depuis plusieurs années, ce sont en particulier les villes côtières. En moyenne, on l'a vu, les villes s'enfoncent de 30 cm par siècle. Or, selon le GIEC, le niveau de la mer devrait s'élever de 30 cm d'ici à 2050. Alors les deux phénomènes, s'ils ne sont pas liés, pourraient bien se cumuler. D'où la nécessité d'arrêter dès maintenant de pomper les nappes phréatiques ou d'envisager de s'adapter.
Merci Pierre pour votre chronique. La chronique Avec Science est à podcaster à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et merci à toutes et tous d'être là avec nous au rendez-vous. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @ScienceCQFD, pour compléter votre écoute. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.